la dernière fois qu'il a parlé sur l'adoration, David nous a parlé du thème adoration et humilité. Et je vous rappelle deux, trois éléments. Des adorateurs qui exaltent Dieu, élèvent le Seigneur, le mettent au centre. De deux façons, on peut l'exalter dans son cœur, par nos pensées, en le faisant par amour, avec notre être tout entier, par notre foi, par notre reconnaissance, par notre appartenance. Et on peut le faire aussi dans nos actions, par notre obéissance, par notre louange, par nos propos, par notre service, en vivant et partageant l'Évangile. Chérir Jésus-Christ dans ma vie, car je ne peux entrer dans une telle démarche que par la grâce de Jésus seul. Voilà, ce matin, David avait le souhait qu'on parle sur le thème de l'adoration lorsque les adorateurs se rassemblent. J'ai été très surpris qu'ils mettent en exergue ce texte. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Voilà, c'est le texte qu'il a choisi. En introduction, il pose quelques questions. Est-ce que le dimanche matin peut devenir un moment stressant de la semaine? Ou si le culte devient une activité parmi d'autres dans notre semaine, est-ce que nous pourrions nous en passer? Ou est-ce que nous pourrions tout aussi facilement vivre un temps de louange, un temps d'enseignement le dimanche matin, mais sans la présence des autres? Maintenant, la Bible nous enseigne qu'il est important de se retrouver entre frères et sœurs, entre amis dans la foi, pour rencontrer le Seigneur ensemble. Et lorsque les adorateurs se rencontrent, ils se laissent inspirer par le psalmiste, c'est le verset que je vous ai lu tout à l'heure en introduction. « Louez l'Éternel, je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. » Remercier et louer Dieu en assemblée est quelque chose d'important à vivre sur terre. Alors parlons de ce vivre ensemble comme il est mentionné dans la Bible. Juste que je mette en fonction, voilà. Depuis le début, Dieu désire que son peuple déclare la grandeur de son nom par des paroles et par un vécu ensemble. Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu, mais c'est ensemble qu'ils étaient appelés à servir Dieu dans l'Éden. On peut se rendre compte qu'une telle adoration émerge de par l'intimité vécue en Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit, il n'est pas un Dieu solitaire, mais il est un Dieu en trois personnes. Et Dieu nous sauve en Jésus-Christ afin que nous soyons en mesure de vivre une expérience semblable de joie, d'amour, de communion. Dieu n'a jamais eu l'intention de ne considérer que ma relation entre lui et moi, car il considère aussi nos relations avec lui et les autres. Alors, il y a quelques passages dans la Bible qui nous rappellent l'importance de la dimension communautaire. Il y a d'abord ce texte dans l'Ancien Testament, en Genèse 2:8, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Ce n'est pas juste une question de mariage, de relation. Mais ceci met aussi l'accent sur l'importance d'être ensemble, de lui apporter notre adoration ensemble. Plus loin, en Exode 19, verset 6, après la sortie d'Égypte au pied du mont Sinaï, Dieu appelle les Israélites un royaume de prêtres et une nation sainte. Et on sait que durant ces différentes fêtes, le peuple de Dieu se retrouvait pour manifester sa reconnaissance à Dieu. Et souvent dans ces temps-là, le renouvellement de l'alliance avec le peuple se faisait à une telle occasion, donc cette alliance entre le peuple et Dieu. Donc ce n'était pas des actions individuelles, mais ensemble, communautairement. Dans le Nouveau Testament aussi, Paul en parle à plusieurs reprises. Il y a ce texte de 2 Corinthiens 6, 16, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu lui-même l'a dit, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Dans ce passage, Paul appelle l'Église le temple du Dieu vivant. Dans d'autres textes, dans Éphésiens 2, 19, l'Église est édifiée sur le fondement des apôtres, des prophètes, des enseignants. Jésus est la pierre angulaire. Elle s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et Pierre en parle aussi, en Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Et si on parcourt le livre des Actes, quand on voit comment vivait la première Église, on se rend compte que ses disciples, ensemble, persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, la prière, mais aussi dans la proclamation de l'Évangile. À certains moments, ils étaient assidus dans le temple, ensemble, et lorsqu'ils étaient persécutés, ils élevaient la voix ensemble. Et ça, c'est au chapitre 4 des Actes. Donc, on peut considérer que si l'on est chrétien, il est fondamental que notre vie de foi se vive dans le cadre d'une communauté. Est-ce qu'il y a des bénéfices à faire partie d'une communauté d'adoration ? Peut-être le terme bénéfice vous surprend, mais voilà. Un théologien disait que l'adoration communautaire n'est ni plus ni moins une démonstration de la puissance de l'Évangile. Nous nous retrouvons ensemble dans la présence de Dieu pour sa gloire, pour notre bien commun. Nous prenons le temps de nous souvenir ensemble de qui nous sommes, du chemin parcouru jusqu'à notre conversion, de la grâce de Jésus à notre égard, de la raison pour laquelle il est important de se souvenir de l'œuvre de Dieu à notre égard, afin que tous ensemble vous glorifiez Dieu. Romains 15, 25. Concrètement, parfois cela peut être facilité par une liturgie, un temps de confession des péchés, recevoir l'assurance du pardon grâce au sacrifice expiatoire, le partage de la scène. Il est important dans ces temps de se souvenir que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et puis dans ces temps, c'est aussi que nous recevons ensemble la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est proclamée, l'Esprit Saint s'en sert pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et ceci afin que chaque homme de Dieu, femme de Dieu, soit formé, équipé pour toute œuvre bonne. Ça c'est dans 2 Timothée 3, 15, 16. Et ces temps d'enseignement sur chemin de la sanctification, ils ont pour objectif d'équiper les chrétiens pour la mission, le partage de l'Évangile. Et je pense que ces temps aussi de communauté d'adoration, c'est de favoriser le service, la bienveillance mutuelle. On sait que chaque chrétien est équipé des dons pour le service des autres. Et ça, on le lit dans 1 Corinthiens 12, en particulier avec cette diversité des dons spirituels, mais aussi dans d'autres textes. Et puis finalement, le rassemblement communautaire témoigne de notre unité au Christ, en Christ. C'est souvent ce vécu communautaire entre chrétiens qui donne un témoignage visible de Jésus-Christ. C'est en lui que vous avez été édifiés ensemble, dans Éphésiens 2. Et puis on peut considérer aussi que le partage de la scène, il ne peut pas se vivre tout seul à la maison. Paul l'exprime bien, dans 1 Corinthiens 10, 16 à 17. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous au même pain. Nous avons été ainsi réconciliés par Jésus-Christ avec Dieu, les uns avec les autres. Et puis, c'est en chantant, en priant, en servant, en proclamant la parole de Dieu ensemble que nous est révélée aussi cette gloire de Dieu. Et parfois, lors d'un rassemblement, le Seigneur peut décider de révéler sa présence d'une manière plus particulière, plus forte, durant un temps de louange, à un autre moment. Et c'est le psalmiste qui envoyait le bénéfice de cette communauté d'adoration dans le psaume 45, verset 7. « Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles, on parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur, on proclamera le souvenir de ton immense bonté, on célébrera ta justice. » Parce que c'est par le moyen de l'Église que finalement la sagesse infinie et variée de Dieu est révélée au monde, mais aussi à toute autorité et domination. Par la louange, par la proclamation de la parole de Dieu, par son application pratique, on manifeste cette sagesse de Dieu. Et le psalmiste dit ailleurs, au psaume 35, le verset 18, « Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. » Alors, si on considère un petit peu ces bénéfices pour l'Église, ben, ça nous, doit nous pousser à agir. Parce qu'il est bon de se retrouver tous au même moment, au même endroit. On veut ensemble s'attendre à Dieu, on veut être sensible à sa voix, discerner ce qu'il veut, que je comprenne, que nous comprenions, que je me mette, que je fasse pour lui et mon prochain. Et puis par rapport à ça, par rapport à ces moments qu'on partage ensemble, on peut s'y préparer dans la prière, on peut demander de pouvoir rencontrer le Seigneur, entendre sa voix justement, comprendre ce qu'il me dit, mais ce qu'il attend de moi vis-à-vis des autres, ceux que je rencontrerai ce matin-là à l'église. Et c'est vrai que pour cela, on peut aussi se préparer non seulement dans la prière, mais en lisant le passage de la prédication. Et puis on peut être prêt aussi à recevoir ce qu'il a prévu de nous donner, la force, la grâce, la foi, l'espérance, l'amour, qui sont ces cadeaux que Dieu veut encore me donner aujourd'hui en présence de mes frères et sœurs. Et puis c'est surtout, et c'est aussi vouloir le servir, selon Éphésiens 4, 16, et contribuer à l'édification de l'Église locale. Et puis, au cours de ces temps que nous vivons ensemble, si on entend le Seigneur, durant le temps de louange, de prédication, de sainteté, durant les témoignages, ben c'est aussi répondre à cet appel, comme on l'a déjà fait, lui rendre honneur, adoration, mais aussi quelque part entendre, obéir, se soumettre à sa volonté. Alors voilà quelques pensées par rapport à ce vivre ensemble, cette adoration que nous pouvons apporter en communauté parce que le Seigneur nous y invite, parce que finalement pour l'Église c'est important et parce que finalement on doit et on peut aussi y contribuer. Ne négligeons pas de nous rencontrer. À chaque fois que nous nous rencontrons, le Seigneur est motivé à œuvrer au mieux pour que nous recevions encore bien plus que ce qu'il a prévu. C'était la prière de Paul dans Éphésiens, au verset 3, 20, quand il dit que le Seigneur fasse au-delà de ce que nous demandons et pensons. Le Seigneur attend beaucoup de son Église pour soutenir chacun de ses enfants. Voilà ce qu'on avait envie de vous transmettre avec David ce matin. Et on vous propose quelques questions. La première qui est plutôt personnelle, et pendant ce temps-là, le groupe de louanges reviendra pour chanter ce chant qui concerne l'Église. Voilà. Est-ce que j'ai partagé cette réflexion, me parle, me touche, ou est-ce que finalement de venir au culte, c'est qu'une vénérable habitude. Remettons-nous, questionnons-nous personnellement pendant ce chant. Puis après, on vous propose par petits groupes de prendre, j'ai mis quatre questions. Comment réagissez-vous à la situation suivante? Un chrétien sans église locale est un chrétien en difficulté. Ou la deuxième, est-il vraiment nécessaire de nous retrouver tous ensemble dimanche matin en tant que communauté? Avons-nous vraiment besoin de nous réunir? Ou pourquoi pas? La troisième, qu'est-ce qu'une église locale? Quelle est sa raison d'être? Et la quatrième, en tant qu'adorateur, comment je vais exprimer mon amour à l'égard de celui qui est différent de moi dans l'église?